I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je suis venu en paix.
Non, là, on dirait que t'as dit je suis devenu un paix.
Je suis venu en paix.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Cette semaine, on va parler d'un grand film.
Un très grand film même.
Voilà, avec mon ami Arnaud Bordas. Salut Arnaud.
Salut Stéphane.
Et en fait, ce grand film, c'est nul autre que Dark Angel,
voilà.
De Craig R. Bexley. Donc un réalisateur qui fait aussi l'exégèse des gros bras, je pense. Hein, je pense qu'on peut le dire.
Ouais, ouais.
Voilà, l'exégèse des gros bras de Dolph Lundgren, en l'occurrence. Là.
Tu lui avais déjà consacré un Stéroïdes vidéo.
Alors, j'avais surtout consacré un Stéroïdes à Carl Weathers, en vrai.
Mais hein, à travers Action Jackson.
À travers Action Jackson, mais parce que c'est le film de Carl Weathers qui était en tête d'affiche, et c'est le film connu, parce qu'il n'en a pas eu beaucoup. Hein. Mmh. Il a surtout fait de la télé en tête d'affiche, Carl Weathers, et puis sûr, il est connu évidemment pour le rôle d'Apollo Creed. Je vous engage, merci d'en parler Arnaud, je vous engage à aller voir notre vidéo sur YouTube, une vidéo montée par Manuel Garcia Pou, voilà, c'était son film suivant Dark Angel à Craig Bexley, parce que Craig Bexley à la base c'est un réalisateur de seconde équipe, on le connaît notamment pour la scène d'action de Carnage même, hein, de l'attaque du camp dans Predator, qui est une scène problématique à plein d'égards d'ailleurs dans Predator, hein, et on fait une petite aparté. Parce que c'est justement la raison pour laquelle McTiernan a exigé ensuite de ne pas avoir de seconde équipe sur le film et de pouvoir tourner toutes ses scènes d'action lui-même, notamment sur Die Hard et aussi sur Predator, le reste du tournage. Quoi, quand il a récupéré, Predator s'était arrêté pendant un temps et en fait, il a exigé en fait, de pouvoir revenir parce qu'il n'était pas du tout content de la façon dont la scène était filmée. Et c'est vrai que c'est une grosse scène de bourrin, hein, mais qui détonne totalement du reste du film. Quoi.
C'est une scène qui, quand même, pour les points positifs, on va dire, met pas mal en valeur le travail des cascadeurs. Quoi.
Certes, c'est aussi sa partie aussi, quoi, Craig Bexley. Quoi. Grand réalisateur à mulet. Et je pense qu'en fait...
Il a un mulet, Craig.
Non seulement il a un mulet, mais en plus, il aime bien filmer les mecs à mulet, parce que quand tu regardes Dark Angel, c'est la fête, quoi.
Ah oui, oui. C'était l'époque hein, aussi qui voulait ça, quoi.
Ouais, je pense qu'il y avait d'autres personnes qui n'avaient pas forcément des mulets, c'était pas plus mal non plus, quoi. Alors, Dark Angel, on pitch ?
On pitch. Tu pitches un peu ?
Non, tu pitches.
Bon, c'est moi qui pitch.
C'est toujours toi qui pitches. Moi, j'aime bien te laisser te démerder. Alors bon, c'est Dolph Lundgren, il joue un flic, mais il est mal dans sa peau. Mais en fait, tu commences à prendre des circonvolutions pour...
Alors, c'est Dolph Lundgren qui joue un flic.
Mal dans sa peau.
Confronté à un... Non, parce qu'il n'est pas particulièrement mal dans sa peau. Confronté à un extraterrestre qui ensanglante les rues de sa ville. Je crois que c'est tourné au Texas. Hein,
C'est tourné à Houston ?
Ouais, peut-être. Ouais. Ouais.
Ou Dallas, je sais plus.
Ouais, je sais plus. Ouais. En tout cas, c'est une grande ville du Texas. Et ne rallonge pas mon pitch, s'il te plaît, Stéphane. Donc, il est confronté à un alien comme ça, venu de l'espace, qui ensanglante les rues de sa ville. Et voilà. C'est le pitch. T'as vu ça un peu ?
Incroyable.
T'as vu ça ? Non, mais bon, pour développer un tout petit peu plus, on lui adjoint, y a un côté buddy movie dans le film, on lui adjoint un agent du FBI qui est joué par Brian Benben, assez mauvais acteur de cette époque-là, qui a connu son heure de gloire avec la série Dream On. Là. Et donc, il va devoir composer, parce que lui, c'est un flic de la rue, un coriace, un gros dur, un peu cool, tu vois, et tout. Et
l'autre, Dolph Lundgren, hein.
Dolph Lundgren, et l'agent du FBI interprété par Ben, lui c'est un type en costard cravate qui respecte les règles, qui est totalement comment on appelle ça, la psychorigide, tout ça, et voilà, et en gros, et puis on peut rajouter aussi qu'en plus du personnage du méchant alien qui dégomme les gens à coups de compact disque,
parce qu'il y a une raison pour laquelle il est là, quoi.
Oui, il y a une raison, c'est en gros, c'est un dealer de l'espace, il vient prélever dans le cortex, je crois, des gens,
l'endorphine, quoi.
Voilà, qui est une drogue précieuse dans le reste de la galaxie. Et il est pourchassé sur le même modèle un peu que le Terminator avec Kyle Reese par un gentil alien qui t'a beaucoup plu, Stéphane. Hein,
de... Mais ce mec, il a une touche, quoi.
Qui est interprété par pas un acteur, hein, Jay Bilas, il s'appelle. C'est un géant de 2 mètres, là. Qui a une tête pas possible dans le film. C'est une sorte de géant hydrocéphale avec une coupe au bol là, en haut, enfin un mulet et la frange.
Pas de body shaming, s'il te plaît.
Non, mais dès que tu le vois débouler à l'écran, c'est magnifique.
Ouais, quoi. Puis il a une coupe de douille totale, quoi.
Ouais, et puis je te dis, ouais, la frange et le mulet, il y a pas mieux, quoi. Tu vois, c'est carte en plein là.
Bon, combinaison fatale, quoi.
Voilà. Et le mec, c'est vrai que dès qu'il déboule à l'écran, son regard perçant et intelligent frappe le spectateur, quoi, tu vois, il exhale un certain charisme. Bon, évidemment, pas du tout, quoi, tu vois, c'est juste, il a un regard de veau, le mec, quoi, et on n'y croit pas une seconde.
Enfin, body shaming, quoi.
Je parlais de Kyle Reese.
Ah, bah, il est pas aidé
c'est pas Kyle Reese, quoi, tu vois, c'est pas Michael Biehn, le mec.
Ah, non, c'est clair, non, mais il est pas aidé par. Mais de toute façon, enfin, voilà, le film, ce qui est assez marrant, c'est que. Donc, c'est un film. Tu croises, on va dire, un film policier basique, quoi, un buddy movie basique, avec un gros élément fantastique qui était un de ces trucs qui se faisait dans les films d'action de l'époque, quoi.
Bon, en gros, c'était faire, je pense, un mélange de Terminator, de Predator et de buddy movie, quoi.
Oui, 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 mais même Predator, c'est un concept un peu similaire, si tu veux. C'est-à-dire qu'en gros, Predator, c'est réalisé par McTiernan. J'ai dit Dieu merci, quoi. J'ai envie de dire, parce que si c'était réalisé par, je sais pas, à la base, c'était Jeff Murphy à l'époque, tu vois, qui n'est pas le pire des réalisateurs hein, à cette époque-là, quoi. Mais c'était lui qui était censé faire le film à la base, hein, quand ça s'appelait The Hunter. Mm. Et ça va devenir un podcast sur Predator, en fait. et en gros, si c'était lui, ça aurait pu donner un film assez lambda. Voilà, c'est McTiernan qui l'a poussé vers les rives de l'abstrait, quoi. Limite, hein, et du survival pur et dur, et du retour à l'état sauvage, quoi. Il n'y a pas du tout de retour à l'état sauvage dans Dark Angel, hein. Je pense qu'on peut le...
Ah, c'est un film anthropologique quand même, moi, je pense, quoi. Il y a quand même une observation des flics en milieu urbain.
La nature humaine. Non, mais alors, et donc, en fait, dans ce high concept un peu foireux, ouais. Il y a toute la bourrinitude absolue de Craig Baxley. Parce que, alors, il faut préciser ce truc-là, c'est que moi, une idée que j'aime beaucoup, enfin, le gamin de 12 ans qui a vu le film à l'époque aimait beaucoup, quoi, c'est le mec, il descend avec un flingue, qui est un de ces flingues que tu voyais à l'époque dans les films d'action, hein, tu sais, les espèces je crois que c'est ça, il faudrait que je retrouve le nom du truc, quoi, mais et en fait, modifié, parce que c'est un flingue qui, dès qu'il tire une rafale, et qu'on entend son tac-à-tac typique, en fait, ça fait exploser des bagnoles entières, quoi. Et là, tu te dis, putain, mais c'est génial, tu vois. Moi, je me dis, mais pourquoi ce flingue n'est pas dans tous les films, quoi.
C'est un mélange de flingue et de lance-flamme, en fait, quoi. Ouais. C'est assez...
Ouais, de lance-grenade ou de lance-roquette, je sais pas, parce qu'en fait, le truc, c'est que tu vois pas de roquette partir, mais par contre, le résultat, c'est... Voilà, et du coup, t'as plein de plans avec, comment il s'appelle, Mathias Hius. Moi, je dis Mathias Hius, mais je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Tu vois.
C'est l'acteur qui interprète...
Le Dark Angel, hein. Je pense que c'est lui, le Dark Angel, non? Oui. C'est parce que le film n'est pas clair là-dessus, tu vois.
Je ne sais pas. Bah, après, Dolph Lundgren, il s'éteint en brun, là, donc c'est vrai. C'est peut-être lui aussi. Voilà. Bah, il s'éteint en brun parce qu'il venait de faire Punisher, pour lequel il était obligé de se teindre en brun. Et après, il a enchaîné là-dessus, il a gardé les cheveux bruns. Après, il est passé par Paris, mais il avait retrouvé ses cheveux blonds. Il a tourné Pleurnicheur pour les nuls.
Il était blond dans les Pleurnicheurs.
Ah oui. Moi, je me rappelle, ça m'avait frappé parce que je me disais, mais il était brun. Qu'est-ce qui s'est passé?
T'as le mec qui découvre la teinture à 13 ans, quoi. Oh. Et donc en fait, j'en étais où, moi? Oui, bah il fait, en fait, Mathias Hius, en fait, tu le vois, en fait, t'as plein de plans du coup dans le film où il est en train de courir devant des bagnoles qui explosent, quoi. Je sais même pas si c'est lui, mais bon, je pense qu'il faut trouver un cascadeur qui fait quand même.
Il faisait ses cascades, c'est ça aussi, hein, voilà. Mathias Hius. Donc tous les plans où on le voit sauter, courir sur des bagnoles, tout ça, c'est lui qui les fait, quoi.
Voilà. Et donc en fait, il y a effectivement donc dans ce film plein de moments un peu incongrus. C'est-à-dire que tu as notamment, par exemple, donc il tue effectivement des gens avec un disque compact, et là tu as des plans à la simili Sam Raimi, j'ai envie de dire, quoi, où tu vois la caméra qui est posée
Scott Spiegel, quoi.
Ouais, voilà, qui est posée sur le disque, en fait, qui part dans tous les sens et qui tranche les gorges des mecs et tout ça. Tu as un moment, alors moi que j'aime beaucoup en fait aussi, c'est que quand il va tuer les gens, le Dark Angel, pour récupérer l'endorphine, il leur plonge une espèce de comment dire,
de seringue.
De seringue flingue, mais qui est posé, enfin qui est sur un truc élastique, tu vois, en fait, comme un grappin, quoi, qu'il lance comme ça. Et donc, en fait, ça fait des très belles scènes d'action, parce que là, il fait ça avec eux, mais quand il essaye de le faire avec Dolph Lundgren, ça marche pas, par contre. Donc, Dolph Lundgren, tu vois.
Il l'arrête avec les mains, Dolph Lundgren.
Dolph Lundgren l'arrête avec les mains, et surtout, il se débat avec, et ça fait une scène à la Ed Wood, où il est en train d'essayer de.
Parce que c'est juste un fil, et voilà. Bon, qui apparemment est très puissant, voilà, le fil, très musclé, mais c'est vrai que c'est ridicule, quoi.
Voilà, et donc, du coup, il essaye d'éviter ça, quoi. Et alors. Je pense qu'il faut crever l'abcès tout de suite. Il faut le dire, Arnaud.
Allons-y, Stéphane, n'ayons pas peur des mots.
Voilà, c'est un film qu'il faut voir en VF.
Voilà, c'est vrai.
Voilà. Donc, il faut le voir en VF pour une raison très particulière.
Oh bah, bon,
c'est que déjà, c'est une VF de l'époque. Ouais. Donc, assez, comment dire.
Techniquement, plutôt bien faite. C'est-à-dire. Non, mais j'entends. non, mais les.
Arnaud, attention.
Non, mais à cette époque-là, ils avaient le temps de travailler en français les doubleurs. Donc, je veux dire, c'est raccord au niveau de la post-synchronisation avec les lèvres, tu vois, tout ça. Après, sur l'écriture du texte, c'est autre chose, effectivement.
Extrêmement ordurière, déjà, voilà. Pour commencer. Ouais, ouais. Et à une époque où, revenons un petit peu, donc recontextualisons, hein, avec un carton, pour expliquer qu'à cette époque-là, en fait, apparemment, l'insulte suprême, c'était le mot PD. Et donc, en fait.
Non, mais je pense qu'il y a, les gens le disaient couramment, mais je pense qu'il y a un problème avec celui qui a écrit les dialogues français, hein, français, parce que c'est pas du tout dans la version originale, où le mec a utilisé le mot PD comme un signe de ponctuation, quasiment.
C'est
quoi. Il y en a tout le temps, et alors, il y a même des fois, moi j'ai éclaté de rire plusieurs fois, quoi, mais il y a notamment un moment où il y a Brian Benben là, qui dit: mais c'est qui ce type là, tu vois, qui nous poursuit, quoi.
VO, c'est It's an assault from outer space.
Voilà, Dolph Lundgren lui répond ça, quoi.
C'est un connard de l'espace.
Un trou du cul venu de l'espace, quoi. Et en VF, la réponse, c'est.
Une espèce de PD de l'espace.
Mais non, mais les mecs se lâchent complètement. Et c'est comme ça pendant tout le film. C'est-à-dire que t'as quand même. Et puis, en fait, quand je dis que c'est même pas parce que t'as des combinaisons de mots, tu vois. Mmh. C'est-à-dire, moi, cette punchline qui m'a toujours. Même le gamin, il me faisait rigoler, si tu veux, quoi. C'est ce moment où, en gros, parce que. Le film a deux titres, hein, je ne sais plus si tu l'as dit au début. Tu as Dark Angel, c'est le titre international. Voilà, donc
c'est le titre de travail, de production, de tournage, tout ça. C'est le titre de la sortie dans le monde entier, Dark Angel. Voilà. Et en fait, quand ils l'ont sorti tardivement, un peu
Angel,
après...
Donc c'est ce qu'on dit, on peut penser que c'est Mathias Huss avec cette allure céleste. Et voilà, voilà. Absolument.
Et en fait, le film est sorti un peu tardivement aux États-Unis, nous on l'a eu avant, par exemple. Et là, ils se sont aperçus qu'il y avait deux films de 1925 et 1935 qui s'appelaient déjà Dark Angel.
En concurrence avec les autres films de Dolph Lundgren.
Voilà. Donc ils l'ont retitré. Ils l'ont retitré avec la phrase gimmick là, de l'extraterrestre qui est I come in peace,
suis venu en paix, qui est une phrase qui sort tout le temps à chaque fois qu'il va buter quelqu'un, tu vois.
Ouais, là il le dit en français, hein. Il dit pas je suis venu comme un PD, je suis venu en paix.
Non, mais le truc c'est que je suis venu en paix, et surtout c'est pas vrai, il ment.
Non, parce qu'il mais oui, mais on nous a trompé.
Voilà, c'est un salaud, quoi. Sauf que Dolph Lundgren, on lui a fait pas. Donc quand il se retrouve en face de Dolph Lundgren et qu'il lui dit je suis venu en paix, Dolph Lundgren lui répond. Et tu vas nous la foutre la paix maintenant, connard, tu vois. Et juste avant, il y a encore un autre truc.
Bon, le jeu de mots quand même est en VO pour le coup, parce qu'il dit I come in peace et il dit rest in peace.
Je sais plus ce qu'il lui dit, and you're going in pieces, ou je sais pas quoi, voilà, un truc comme ça, bref. Et il y a donc ça, et avant cette phrase-là, c'était ma punchline préférée à l'époque, quoi. J'ai un petit moment.
Roulement de tambour.
Non, mais je raconte ce petit moment un petit peu embarrassant de ma jeunesse, tu vois. C'est à l'époque où on n'avait pas. Internet, voilà, à l'époque on n'avait pas Internet, à l'époque on n'avait pas YouTube, à l'époque on pouvait pas se retaper des scènes comme ça. J'avais pas forcément de la place pour avoir tous les films, même si bon, Dark Angel en vrai j'aurais pu l'avoir en entier. Mais j'avais des moments qui me faisaient marrer dans les films et je les prenais, je les copiais sur une cassette.
Stéphane, j'ai vu cette vidéo, au cours d'une soirée peut-être un peu arrosée, voilà. Je ne sais pas, mais où nous avions beaucoup ri.
Et dans cette vidéo s'ouvre, c'est le premier truc que j'avais pris. C'était donc cette scène où t'as Dolph Lundgren qui se débat avec le filin, le grappin du Archangel, quoi. Et quand il lui retourne le grappin, il lui dit
« Va te faire en plan trépédé
!» Non, voilà, déjà, en fait, c'est une combinaison, quoi. Tu vois, va te faire emplâtrer, déjà, ça veut rien dire, tu vois.
Bon, c'est une expression de l'époque, hein.
Pédé, le mec, il est même pas pédé.
Ça commence à être pesant, cette histoire de pédé. Tout le monde s'acharne sur nous alors qu'on est même pas pédé.
Bah oui, je sais.
Donc bref, enfin ça devient n'importe quoi. Donc c'est un peu un film concept.
Non mais bon, ça fait partie de l'époque où les doubleurs français ils se lâchaient, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Ouais, les studios américains, j'entends, ne contrôlaient pas leur travail, ne validaient pas leur travail, et les mecs faisaient n'importe quoi. Et donc là, ouais, il suffit qu'un mec, je sais pas, ça doit être son insulte préférée, quoi, et il l'a casé partout, quoi.
Ouais, mais t'as envie de dire Calvos, tu vois. Mais moi, c'est vrai que t'as raison, parce qu'il y a plein de VF en fait, et c'est un peu pour ça que c'est un petit peu savoureux des fois de revenir sur ces VF là. Nous, il y a une VF qu'on adore qui est celle de l'épreuve de force, le maître de guerre et l'épreuve de force, c'est deux VF qui sont absolument incroyables, quoi. Mais même dans les Steven Seagal, tu sens que les mecs ils regardaient les films et ils se disaient, mais c'est quoi ces films là, quoi. On peut pas faire, il faut qu'on rajoute de la connerie, quoi. Et il y a notamment dans Terrain Miné, t'as ce moment où il traite, tu sais, quand il fait la scène de la main chaude. Ça devient, c'est un podcast pluri-film, en fait. Tu vois. Cette scène où t'as Steven Seagal qui traite son adversaire de grosse couille, tu vois. Il lui dit, t'es grosse couille. Et t'as un mec derrière, dans le fond, qui dit, et c'est pas du tout dans la VO, hein. Quand Steven s'apprête à lui mettre une branlée, t'as un mec au fond qui dit une autre tournée pour grosse couille, juste avant, quoi. Et là, tu te dis, mais pourquoi vous rajoutez ces trucs-là? Ça se trouve, ce film, il va avoir l'Oscar un jour. On n'en sait rien.
Ça, c'est ce que tu te disais à l'époque.
C'est exactement ce que je me disais, comme Dark Angel. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il a pas eu l'Oscar, quoi. Donc voilà, donc c'est un film de je pense qu'on peut dire un film de gros bourrin, hein, je pense. Assez cheap quand tu réfléchis un petit peu, mais malgré tout assez marrant. Mais t'as pas l'air de t'être trop marré, toi, en voyant le film.
Non, il y a quelques trucs marrants, on les a évoqués, hein, déjà, tu vois. Mais bon, après, c'est vrai que voilà, ça reste le produit d'une époque. C'est loin d'être. Bon, il n'a pas une filmo démentielle non plus, mais c'est loin d'être ce que Dolph Lundgren a fait.
Mais alors voilà, moi j'aimerais qu'on parle un petit peu de Dolph Lundgren, parce que je pense que c'est un truc qui est assez intéressant, c'est que là, moi, on révèle un peu l'envers du décor. Souvent, quand j'appelle mes amis pour leur proposer d'enregistrer des podcasts stéroïdes, je leur dis, bon les gars, on n'a pas parlé de Dolph Lundgren, on n'a pas parlé de Vanda, mais vous me sortez les bons films. Et moi j'ai envie de dire non, à un moment donné en fait il y a aussi des films un peu des séries B un peu crapoteuses, un peu rigolotes, un peu machin, et c'est l'occasion justement de parler de ces stars de l'action, quoi. C'est vrai qu'en fait ça fait maintenant un an et demi qu'on fait des vidéos stéroïdes, 8 mois au moins qu'on enregistre des podcasts, et c'est vrai qu'on n'avait jamais enregistré un podcast sur Dolph Lundgren. Et moi je pense que c'est un personnage intéressant, parce que à l'époque où il y avait une action star intéressante, parce qu'à l'époque où il y avait tous les Stallone, les Schwarzenegger, les Bruce Willis, les Van Damme comme ça, qui avaient des vrais cartons en salle, t'avais Dolph Lundgren qui essayait justement de faire sa part aussi, mais qui n'a jamais vraiment réussi à percer en tant que premier en fait lead, on va dire. C'est-à-dire qu'il a eu beaucoup de rôles, hein, en tête d'affiche, on va dire, parce que bah, je pense qu'il s'impose, hein, il a quand même ce charisme, il a quand même un truc, hein, il est grand, il est baraqué, il est plutôt beau mec et tout, quoi. Mais il a été connu notamment dans un second rôle, et un second rôle assez savoureux, on va dire, hein, pour dans le domaine du film d'action, qui est le personnage de Drago dans Rocky 4. Et en vrai, je pense que c'est ce qui reste dans l'esprit du public.
Oh oui, voilà. C'est pour ça. Hein.
Et le truc, c'est que je pense que c'est ce qui pose problème dans tous les films qu'il a essayé de faire derrière en tant que tête d'affiche. Après, des bons ou moins bons, hein, moi, bon, le Scorpion Rouge, je vais pas délirer sur ça, quoi.
Voilà, Joseph, quoi. Zito.
Voilà, Avatar avant l'heure, hein, j'ai envie de dire. Enfin, revoyez le film, vous verrez. mais en tout cas, sur le, ce que ça raconte, le plot, y a pas mal de films. Mais à la limite, c'était cohérent de le voir dans un film comme le Scorpion Rouge, parce qu'il a cet aspect monolithique.
Je pense que c'est quelqu'un qui a essayé un petit peu, que ce soit à travers ses seconds rôles ou ses têtes d'affiche comme ça, y compris des séries B là dont tu parles, il a tenté à un moment d'essayer de faire autre chose que juste le musculeux bourrin comme il est dans Dark Angel, parce que
le Punisher par exemple de Mark Goldblatt, il joue un personnage torturé. Ce qui est le personnage du Punisher à la base.
Même le Scorpion Rouge, hein, il y a un petit peu ça, quoi, ouais. Aussi. T'as l'homme de guerre aussi, qui était.
Ça c'est bien après, hein, c'est en 95.
Ouais, mais qui est orienté aussi vers un truc un peu plus psychologique. Il y a même des seconds rôles. Je pense que c'était une grosse production à l'époque, hein, Johnny Mnemonic, tu vois. où il a un rôle vraiment atypique là, de sorte de prêcheur là où il a la barbe, les cheveux longs, voilà, avec une grande
un peu fou, ouais.
Toge de moine là, tu vois, c'était étonnant de le voir. Moi, je me rappelle très bien qu'à l'époque, je me disais ah tiens, il fait
mais,
des trucs.
Mais c'est un peu le souci, je pense, c'est-à-dire qu'encore dans Jamie Mullick, qui teste des trucs comme ça dans un rôle secondaire, pourquoi pas. Même si moi, je trouve que c'est encore une fois, j'aime bien Dolph Lundgren, mais c'est pas un grand acteur non plus. Hein.
Il a essayé quoi. Voilà, il a essayé. Après, il est vite rentré dans le rang. Enfin, c'est-à-dire, il s'est dit bon, je suis fait pour ça, et il est revenu à des séries B, des trucs, je sais pas moi, Au-dessus de la loi, qui est un petit film d'action là que j'aime bien, là, de Vic Armstrong aussi, il y a beaucoup de cascades dedans, quoi, vu le réalisateur. Mais des trucs où en gros...
De la pompe de John Woo à fond, la caisse. Hein.
Ouais, un peu comme Stallone ces dernières années, quoi, tu vois, qui s'est dit, bon, bah, je vais revenir à ce que les gens veulent de moi, quoi. Je vais pas essayer de... Mais à une époque, il a tenté un peu d'essayer de faire quelques...
Mais Stallone, ça a été une vraie tête d'affiche avec des vrais cartons.
Oui.
Alors que Dolph Lundgren, justement, en fait, c'est quelqu'un, qui,
niveau,
hein. c'est quelqu'un qui doit sa carrière déjà à Stallone, bon, dans l'absolu, hein, parce qu'à la base, c'est un mannequin, puis en fait, il était,
c'est une tronche quand même.
C'est une tronche aussi,
crois qu'il a un diplômé de physique chimie ou un
tout
truc
à fait,
comme ça,
mais c'est une tronche à la base. Et puis ensuite, il a un peu fait le mannequin parce qu'il a le physique qui va avec, quoi. Il faut être honnête, quoi. Et puis c'était le mec de Grace Jones dans les années 80. Hein. Mmh, il a fait une petite apparition dans Dangereusement Vôtre. Mmh. Il joue un homme de main. Et il a été remarqué pour sa carrure, quoi. Et c'est pour ça qu'ils l'ont foutu dans le champ, quoi. Il doit sa carrière à Stallone, et après, en fait, si tu veux, il y a pas mal de gens qui ont capitalisé sur le très gros succès de Rocky IV, hein, qui était le plus gros succès de la franchise à l'époque. Aucun de ses films n'a vraiment rapporté. Voilà, sa carrière a été plus ou moins relancée de manière un petit peu régulière quand il s'est retrouvé, par exemple, quand Van Damme est allé le récupérer pour Universal Soldier en 92, ce genre de choses, en fait. Et là, par exemple, Dolph Lundgren, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, il revient un petit peu en état de grâce, toute proportion gardée, grâce notamment, encore une fois, à Stallone, qu'il a récupéré pour Expendables, quoi. Donc y a ce truc, en fait, où c'est un nom qu'on connaît, un type qu'on aime bien, que je pense que le public aime bien de manière générale, hein, Dolph Lundgren, mais qui a, malgré tout, une carrière finalement parsemée d'échecs. Un film comme Punisher, c'est sorti en vidéo aux États-Unis, hein, directement, quoi, parce que ces films-là ne marchaient pas, en fait. C'est-à-dire que c'était des plus petits budgets aussi, hein, c'était des films c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à transformer l'essai comme Van Damme a pu le faire, c'est-à-dire sortir des films de kickboxer comme c'était le cas de Van Damme au début, des tout petits budgets, pour arriver à des plus gros budgets, voire des films de studio. Quoi. Effectivement, quand il était dans un film de studio, Dolph Lundgren, c'était un film de studio où il faisait le second rôle ou ce genre de choses, quoi, comme Johnny Mnemonic et voilà. Quoi. Donc Dark Angel, c'est un peu dans cette mouvance-là. Bon, il est vrai qu'il essaye de jouer le mec un peu... Enfin, en fait, pour moi, en voyant le film comme ça, je me dis, mais il essaye de jouer Martin Riggs ou je sais pas quoi, tu sais, le mec un peu goguenard, un peu je fais des blagues et tout ça, etc. Et ça colle pas, quoi. Enfin, c'est voilà, quoi.
Moi, il y a ce plan final qui me fait éclater de rire. C'est un freeze frame là, où t'as un arrêt sur image comme ça avec le générique qui va pour défiler. Il est dans la rue. Bon, lui, il fait 2 mètres de haut. Là, il a Brian Benben d'un côté et puis sa nana de l'autre. Il les serre contre lui. Ils sont minuscules. On les voit à peine, quoi, tu vois. Et lui, il éclate de rire comme ça, c'est
Mais bon, ça c'est un freeze frame de typique des séries télé, quoi, en fait.
Ouais, mais voilà, mais tu penses un peu à Police Squad aussi. Écoute, ouais. c'est... Non, mais bon, ouais, c'est vrai qu'il aurait. Dolph Lundgren, je pense qu'il est dans ce film-là, en tout cas, il essaie de redupliquer un modèle qui existe déjà, tu vois, quoi, de se mettre dans ce mouvement-là, quoi. Et il y arrive difficilement parce que enfin voilà le matériau de base qu'il a aussi, quoi, tu vois.
Mais
ça tient pas qu'à lui, quoi. C'est voilà, aussi
préciser quand même qu'il y a un nom un petit peu prestigieux au générique.
David Cupp, ouais.
David Cupp.
Au scénario, ouais.
Qui est quand même assez étonnant quand tu regardes.
Alors, qui a fait du rewriting, apparemment.
Hein. Certes, mais bon. Et qui signe sous pseudo, par contre, c'est ça, hein, je crois. Non Ou alors il signe.
Je sais pas, faudrait vérifier, mais.
Moi, j'aurais signé sous pseudo. mais voilà, quoi. Mais donc, oui, David Cupp, qui est quand même bon, écrit Jurassic Park.
Mission Impossible.
L'épreuve.
L'impasse.
Voilà.
Donc oui, scénariste assez devenu prestigieux par la suite, quoi. Spider-Man de Sam Raimi,
voilà,
aussi.
Voilà, réalisateur, quoi. Donc
réalisateur aussi. Comment s'appelait son film avec Kevin Bacon, Styrofécose, là.
Antise en France.
Antise.
Hypnose. T'as tous ces films. Qui... Non, Antise, c'est le Liane de Bond. C'est le remake de
Mais
la Maison du Diable.
Donc ouais, c'est devenu un réalisateur prestigieux, un scénariste prestigieux, quoi. Tu vois, il est aussi réalisateur. Et là, bon, bah, il faisait ses premières armes. Il bossait un petit peu là. Il faisait du rewriting pour la production, quoi.
Voilà. Donc au mieux, je pense qu'on peut dire que Dark Angel, c'est de la petite série B. Pour les bourrins comme moi, hein, j'ai envie de dire, je t'inclus pas forcément dedans.
Moyennement,
hein, c'est un peu plus.
C'est rigolo pour une soirée comme ça, là, tu vois, entre potes, là,
Pizza-bière. Mais d'ailleurs, pour l'anecdote, de temps en temps, en fait, avec.
Et en VF, donc.
Voilà, et en VF, pour l'anecdote, parce que on raconte notre vie là, dans ce podcast. On fait de temps en temps avec les membres de Stéroïde, on fait des soirées. Alors ça, c'était avant le confinement et avant tous ces trucs-là. Il faut qu'on reprenne ça, quoi. On fait des soirées où on se tape des films comme ça. Et Dark Angel, ça a été le premier. Un choix de notre ami Cédric Fontana. Il nous a dit, attends les gars, je l'ai, j'ai la VF, on y va. Et en fait, effectivement...
Une bonne soirée
en perspective pizza-bière, quoi. Ouais. Moi, je recommande, mais bon...
Plus je le vois
et moins ça passe quand même. Mais voilà,
je recommande pour voilà, ce qu'on a dit. Entre potes, une bonne soirée pour rigoler, ça mange pas de pain, et voilà.
Merci Arnaud.
Merci Stéphane. Merci à tous les auditeurs, les tipeurs.
Les tipeurs qui t'ont permis de venir ici pour parler de ce grand film. Mmh. Merci Alain.
Pas
merci
que pour ça non plus.
Non, mais... Merci Alain, merci à la technique. Merci Lavi, merci Dolph, merci Mathias Hughes, merci Dark Angel, merci Craig Baxley. Vous pouvez nous suivre sur. Alors, si vous voulez nous soutenir, déjà il y a Tipeee.com, les mots-clés c'est Capture Mag, et puis vous pouvez nous suivre sur les plateformes habituelles, hein, c'est-à-dire SoundCloud, Deezer, Spotify, sur YouTube où il y a la fameuse vidéo justement sur Carl Weathers et Action Jackson. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.
Au revoir.
Je suis venu en paix. Et tu vas nous la foutre, la paix, maintenant, connard.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.